On va sauter du coq à l'âne, hein, c'est un peu normal, hein, pensez donc. On va revenir chez nous, avec les Antilles, dont tu parlais tout à l'heure, Philippe. Et il y en a un. Hein. Oula, j'ai une série là. Là, on parle des Antilles, extension de la Grave.
Il y a une histoire d'écologie là-dedans.
Voilà, le 7 octobre dernier, le glacier de la Gireuse à la Grave était occupé par les militants des soulèvements de la Terre. Ils ont gravi 2000 mètres de dénivelé pour bloquer le chantier du troisième tronçon du téléphérique de la Grave-Lamège. Alors je vous propose un petit retour en arrière avec une militante qui s'exprime.
Un projet qui est totalement incohérent par rapport aux enjeux écologiques. On sait qu'avec le dérèglement climatique, nos glaciers sont en grande souffrance. Les scientifiques nous disent que près de 90% des glaciers pourraient avoir disparu dans les Alpes d'ici la fin du siècle. Et nous, la dernière idée qu'on a trouvée, c'est de continuer à glisser dessus plutôt que les respecter. Donc on a décidé de se mobiliser aujourd'hui, un mois avant un événement qui va être très important, qui est un sommet planétaire sur la protection des glaciers que la France va accueillir. Donc on appelle le gouvernement, on appelle Emmanuel Macron à protéger cet écosystème d'envergure de ce nouveau projet d'aménagement qui franchement a tout d'obsolète.
Donc ça, c'était évidemment un membre de Mountain Wilderness. Je vous propose la réaction de Jean-Pierre Pic, hein, le maire de la Grave. Tenez, écoutez-le.
Nous, il nous faut ce troisième tronçon, si on peut appeler ça. Mais le troisième tronçon, il était déjà du fait avec le téléski. Mais on va supprimer le téléski, on va enlever 100 tonnes de ferraille, on va enlever 100 000 litres de fioul, on va faire ce qu'il faut pour que ce soit le plus écologique possible, mais apparemment, ça n'a pas l'air de suffire à ces messieurs. On a connu dans les années 86 le téléphérique fermé. La Grave, c'est qu'un endroit de passage. Voilà. Donc, on essaye, de faire vivre notre pays, de promouvoir notre pays. On a été élus sur ce projet-là. En tout cas, 80%, un peu plus de 80% même, de la population nous a soutenus là-dessus. Et je pense qu'il faut... C'est à notre devoir de le porter à bout de bras, en tout cas, même.
Voilà, Jean-Pierre Pic, le maire de la Grave, et on terminera avec la réaction d'un habitant de la Grave.
On avait un vieux télésiège qui était vraiment pourri, qui avait jamais marché, qui était à 2004. La SATA l'a démonté à ses frais. On a dû changer deux câbles sur le premier et sur le deuxième tronçon. Donc je vous laisse imaginer le coût d'un câble qui fait, pour le plus grand, plus de 5 km. La SATA a changé aussi les moteurs des deux tronçons du téléphérique, les cabines aussi. Donc tout ça, c'est de l'argent. Et il devait aussi démonter le restaurant qui est en train de se casser la gueule aussi dans le glacier. Donc il y a vraiment un gros chantier d'ampleur. Et un chantier d'ampleur, forcément, ça fait peur. Faut-il ou non garder le téléphérique, retaper le téléphérique? Eh bien, moi, je pense que oui, il le faut. On sait que le téléphérique, sur la saison d'hiver, c'est un peu plus d'un tiers de nos... un gros tiers de notre clientèle. On parle d'un territoire qui est vraiment tout petit. D'un côté, on a le col du Lautaret, et de l'autre côté, on a la route de Grenoble. Donc, il n'y a qu'une route qui passe. On est vraiment quelque part coincé. Moi, si je suis arrivé à la Grave il y a 25 ans, c'est grâce et à cause du téléphérique. Il n'y aurait pas eu de téléphérique, j'aurais jamais rencontré ma femme, j'aurais jamais eu d'enfant ici. Et la plupart des gens, même les détracteurs, 98% des gens sont là et sont restés grâce ou à cause ou travaillent en collaboration avec le téléphérique.
Alors, sujet on ne peut plus local, hein. Donc là on est en plein dedans, hein. Après donc le Hamas. réflexion ?
Il faut recadrer un peu les choses. C'est un peu dit dans les interviews des locaux, c'est pas une station de ski la Grave.
Oui, oui.
Hein, c'est une piste, une remontée, et des gens qui font beaucoup de hors-piste. Mmh. Il faut savoir aussi, si on veut aller sur le créneau économique, parce que moi, forcément on y va, c'est une station hyper internationale. Il y a des gens qui traversent la planète, il y a des Australiens,
des Américains.
Ouais. C'est unique. C'est pas une station de ski, c'est un spot.
Un spot.
Ouais, c'est voilà. Un spot. Et un spot hors du commun. Et là, franchement, enfin bon.
Le maire, là, qu'est-ce qu'il en parle?
Qu'est-ce qu'il en dit, le maire?
C'est quand même assez révélateur du contexte dans lequel on évolue, et on voit bien quand même la rupture à laquelle on assiste entre la position défendue par les élus, par les décideurs, et une frange de la population, en tout cas des citoyens engagés. Quelque part, donc, les élus, pour eux, vu que le projet il a été adopté à l'unanimité, l'unanimité en 2017, et c'est le discours que défend mon collègue Jean-Pierre Pic. Il a été élu lui-même sur ce projet.
Sur le projet, ouais.
Donc pour lui, il ne voit pas pourquoi il n'irait pas au bout. Mais on voit bien qu'en très peu de temps, depuis 2017, l'acceptabilité pour ce genre de projet devient très compliquée. Et pourtant, dans nos villages, dans nos territoires de montagne, comment on arrive vraiment à articuler cette nécessité de continuer les aménagements, le développement, raisonné, certes, mais on ne peut pas arrêter du jour au lendemain le tout ski avec ces enjeux de diversification touristique, de respect de l'environnement. Alors ce qui me gêne, moi, dans l'exemple de la Grave, c'est que le troisième tronçon du téléphérique, il est aussi destiné à justement à pouvoir augmenter les amplitudes d'ouverture du domaine. Comme le président Philippe, on n'est pas sur une station de ski. Donc quelque part, ça va dans le bon sens au niveau de la diversification touristique, l'extension des saisons. Moi, c'est pas l'exemple récent qui me choque le plus, la Grave. Ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous avez suivi, ce qui s'est passé le week-end dernier, il y avait une course de ski prévue dans le circuit Zermatt. De Coupe du Monde à Zermatt.
Ouais.
C'était la deuxième année que cette épreuve était programmée au calendrier de la Coupe du Monde. L'année dernière, elle avait été annulée en faute de neige, puisque positionnée trop tôt dans
le calendrier. Oui.
Du coup, au début de l'automne, on a tous vu les images des pelleteuses qui grattaient glacier au-dessus pour amener de la neige au niveau des pistes de ski où était prévue cette course. Alors, je salue, il y a eu quelques prises de position courageuses de certains skieurs, à commencer par notre champion français Alexis Pinturo, qui avait décidé de boycotter cette course, qui pour lui, et je suis content qu'il l'ait est un non-sens et qui ne donne pas une bonne image du ski.
Ah oui.
Et au final, la course a été annulée, non pas à cause d'un manque d'enneigement, mais parce que la météo était trop mauvaise. Donc on a fait tout ça pour que cette course ne voit pas. Et donc là, on voit bien le risque, le problème, c'est de programmer des courses aussi tôt dans la saison en Europe, à des altitudes où on ne peut pas garantir un enneigement suffisant. Et on donne forcément de la matière, du grain à moudre à tous ces anti-tout.
Oui.
Voilà, donc moi cet exemple-là, je le trouve plus choquant que le projet de la Grave, qui, je pense, a été bien pensé par ceux qui étaient derrière.
Yves ?
Moi je ferais un rapprochement, alors ça nous éloigne puisque c'est aussi dans la montagne, mais c'est l'autoroute entre Toulouse et je ne sais plus quel endroit, qui devait faire gagner Castres, voilà, où il y a eu une levée de bouclier qui me paraissait sensé là, justement cette levée de bouclier, parce que pour gagner un quart d'heure, comme c'est un projet qui a été décidé il y a 30 ans, ils se sentent un peu obligés de continuer, et franchement là je sais pas sur l'implication du quart d'heure à gagner par rapport aux effets néfastes que ça a sur la nature, et je pense que c'est compliqué, mais il faut savoir quelquefois arrêter des projets comme ça. Autant la Grave, là, c'est différent, parce que la Grave, c'est comme le disait Philippe, c'est un domaine hors-piste. Il n'y a pas de concentration, il n'y a pas de quart d'heure de gagner, il y a simplement une activité pour des gens qui en ont vraiment besoin pour vivre. Donc là, on est sur un autre domaine, on n'est plus sur du temps gagné, mais sur une activité importante pour la région.
Jean-Paul ?
Ben, personnellement, je pense que ça doit être une amélioration, puisque on a tous pris le téléski qui existait. Bon, là, il y aura qu'un seul pylône. Si c'est bien, bien, bien encadré, il faut foncer. Parce que je pense que sans téléphérique, parce que sans ça, s'il n'y a pas le troisième tronçon, clair, net, simple et précis, c'est la mort du téléphérique. Ouais. Hein, qui amène quand même, qui draine des gens, pas des milliards de gens, des centaines, des dizaines, de gens du monde entier. Sans téléphérique, la Grave, c'est terminé.
Oui, on ferme la Grave, quoi.
Oui, c'est très simple. Ça durera 5 ans, 10 ans.
Ouais.
Mais si vous aimez la Grave, ça pose un gros problème. Ouais. Il faut défendre peut-être les habitants de la Grave.
Voilà pour les avis des Coqualiens aujourd'hui sur ce sujet de la Grave. Allez, un autre sujet avec. On va rester dans le sport. On va rester un petit peu dans le sport, si vous le voulez bien, avec les JO.
Et voilà.
Et les anti-JO. Voilà. Donc, mardi dernier, c'est le 7 novembre, dossier porté par deux régions, hein, PACA et Aura. Il a été déposé par Renaud Muselier et Laurent Wauquiez au Comité international olympique à Lausanne. Le grand oral devrait avoir lieu dans quelques jours, je crois que c'est le 21 novembre, pour défendre la candidature française. Alors, candidature JO 2030, donc pour les régions Aura et PACA, la question, la voilà. Est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas? En sachant qu'il y a deux autres candidats. Hein. Il y a la Suède.
De sérieux candidats.
La Suède et la Suisse.
Ouais. Ouais. Donc c'est pas encore fait.
Ah oui, non, c'est pas fait. Mais est-ce qu'on peut y croire? Est-ce que vous pensez qu'on a éventuellement des chances? Alors pour ceux qui sont fans, hein, ou des malchances.
De ouais, moi, j'y crois. J'y croyais déjà au projet des Jeux Olympiques, appelez-vous.
C'est vrai. C'est beau l'enthousiasme.
Ah ouais, quand même. On pouvait pas le placer.
On ne pouvait pas ne pas passer par là.
Non, une petite remarque. J'ai vu le projet avec la carte et tout. Donc il y a un pôle Savoie.
Oui.
Un pôle Haute-Savoie,
ouais.
Et un pôle Briançonnet.
Ouais.
Non,
oui.
Ça vous a pas choqué ça?
Oui.
Haute-Alpes quand même, non?
C'est... Oui. Ah, oui, bon.
Oui.
Non, mais enfin, c'est chez nous.
Non, mais il y a même en dessous.
Il y a des républiques.
Il y a Isola 2000.
Il y a Isola 2000, tout à fait. Ouais. Il y a rien dans les.
Il y a toutes les épreuves toutes les Alpes, de hockey auraient lieu à Nice chez M. Estrosi.
Il y a rien dans les Alpes de Haute-Provence.
Oui,
je pense que les récentes tensions qu'il y a pu y avoir au sujet de fusion de stations sont certainement pas étrangères à
pour
ça.
L'instant.
Puis si j'ai bien compris, il y a eu aussi une volonté de privilégier les stations les plus en altitude.
Oui, mais c'est plutôt bien. Non, mais moi je crois que c'est un projet, pour une fois fédérateur, des Alpes. Parce qu'en fait, quand on parlait des Américains, quand ils viennent, bon, alors pour ceux qui font du ski de piste traditionnel, pas du ski hors piste, ils viennent dans les Alpes. Mmh. Ils s'en foutent de savoir si c'est Briançon, c'est Megève, si c'est la Clusaz ou si c'est Isola 2000. Ils sont dans les Alpes. Et donc là, c'est un projet alpin, les Alpes françaises, et je trouve ça bien.
Alors effectivement, j'avais quelques doutes sur le fait que l'équilibre puisse être bien respecté et que les Alpes du Sud, enfin en tout cas le Briançonnais, se retrouve pas un petit peu lésé par rapport aux deux Savoies. Donc de ce point de vue-là, je pense que l'équilibre est bien respecté. Je pense qu'il faut saluer effectivement le travail, l'entente, la bonne entente entre les deux régions. De ce que je connais, ce que j'ai pu lire du projet, il y a quand même bien le souci d'éviter de construire de nouvelles infrastructures gigantesques et de réutiliser autant que possible l'existant. Pour autant, je suis assez partagé. Alors c'est vrai que les choses vont vite. Je pense que c'est aussi ce que déplorent certains collectifs qui sont en train de se monter, qu'il n'y a pas eu de débat, que ça arrivait un petit peu comme ça sur le tapis. Et moi, c'est vrai que j'ai encore le souvenir quand j'étais gamin de la magie lorsque la France avait accueilli les JO à Albertville, le travail qu'on faisait à l'école sur les valeurs de l'olympisme, et pour en avoir parlé avec mon fils de 7 ans, pour lui aujourd'hui les Jeux Olympiques c'est synonyme de pollution, de non-respect de l'environnement, et je sens qu'il y a un besoin au niveau de la société civile, ouais, qu'on ait ce genre de débat. Est-ce qu'il est opportun aujourd'hui qu'on continue à accueillir ce type d'épreuve, alors que ce soit en France ou ailleurs, les Jeux Olympiques verront le jour. On a quand même l'exemple ici récent des JO de Turin, où moi ça me fait quand même mal au cœur de voir certaines installations comme la piste de bobsleigh qui ont dû servir deux fois, qui depuis sont à l'abandon. Donc je crois encore en la magie des JO, ce que ça peut apporter aussi à un pays en termes d'aménagement d'infrastructures, mais est-ce que c'est pas prématuré, est-ce que c'est pas trop tôt? Là, si j'ai bien compris, on saura d'ici 2025 qui est le pays hôte. Est-ce que 5 ans, ça laisse le temps suffisant? Parce que c'est la position qui est défendue. Si on a les JO, on va avoir une nouvelle ligne de chemin de fer, nos routes vont être améliorées. Mais est-ce qu'on aura le temps en 5 ans de faire tout ça?
Non, mais tu as raison, et on a le sentiment que ça s'est débloqué en peu de temps, quoi. On a l'impression que du côté de l'Elysée, on a dit « Allez, on y va !» Et en 2 mois, on a présenté un dossier, en tout cas une candidature, parce que le dossier, il va falloir le monter, hein, non?
Oui, mais quand on voit les... Je sais pas, j'ai entendu parler de la Coupe du Monde de foot qui allait se passer encore une fois en Arabie.
Oui, oui. En projet.
Allez, mais Vincent a raison, il faut utiliser des sites alpins pour des Jeux Olympiques alpins, qui existe déjà et où il n'y aura pas grand chose entre guillemets à faire pour accueillir les gens, et surtout dans des stations où ils sont déjà enneigés naturellement. Et donc c'est un non-sens, que je sais pas, on aurait pu imaginer de faire des Jeux Olympiques d'hiver en Arabie Saoudite avec
ils vont le proposer, hein. Ils font une station de ski là-bas.
Oui, non, mais justement, ça c'est du grand n'importe quoi.
Donc, que les exemples récents de Jeux Olympiques aient servi de leçon et qu'on ne reparle plus dans ce genre de délire.
Voilà.
La tendance serait de se rapprocher, si j'ai bien compris, des Jeux de Lillehammer qui avaient été extraordinaires, qui était un petit peu dispersé aussi. Donc là, quand même, Courchevel vient d'organiser les championnats, et Miribel, les championnats du monde de ski. Le Grand Bornand, c'est une des plus belles endroits pour le biathlon. Les patinoires, ce serait Nice et très probablement Marseille qui vient de faire une patinoire de 5000 places. Mmh. Donc la piste de bob serait déplacée soit en Italie, soit enfin elle, ou il reprend celle de la plagne.
Le patinage de vitesse, l'idée c'est effectivement d'éviter de construire une patinoire spécifique et de délocaliser ça à l'étranger. Les Pays-Bas sont notamment. En tout cas, il y a une certaine légitimité à la candidature. Ça,
ah si, Philippe, t'es dans ton petit sourire là.
Non, on pourrait délocaliser à Tahiti peut-être. Et paf.
On pourrait demander éventuellement à Anne d'aller jeter un petit coup d'œil, faire un petit repérage, éventuellement. Tu parlais, Vincent, de ton souvenir d'enfance avec donc les Jeux Olympiques
d'Albertville. Et le Hammer qui avait suivi 2 ans après, c'était aussi magnifique. On se souvient de ces belles images. En plus, c'était sublime. C'est vrai que si on arrive à renouer avec cet esprit-là des Jeux, moi, je suis une...
Jean-Paul, lui, c'était plutôt Grenoble. Hein.
Oui, non, je suis d'accord avec toi. Mais
Jean-Paul Killy.
Voilà, mais comme on a Philippe qui nous a parlé tout à l'heure de Staline qui l'a vu en direct.
Ah, voilà. C'est vrai que tu te sens
sens très à l'aise pour parler de Grenoble. Voilà. Mais tu m'as sauvé la mise, Philippe. Très bien.
On va revenir sur Édouard Philippe parce que je l'ai annoncé tout à l'heure. C'est très étonnant quand même que dans le sondage, on saute du coq à l'âne, mais c'est normal. C'est quand même très étonnant dans le sondage que ce soit lui qui soit le plus porteur de la Macronie aujourd'hui. Alors du coup, on le voit, il est toujours présent. Il était, il n'y a pas si longtemps que ça, invité sur Radio J, c'était le dimanche 5 novembre. Et il a évoqué la possibilité d'un rétablissement du service militaire. Alors, je vous propose de l'écouter.
Si c'est pour faire un service militaire...
En dehors du service civique, vous voulez dire.
Est-ce qu'il faudra reformer une partie de la jeunesse, voire toute la jeunesse? C'est une question qui sera peut-être posée. Comme je pense que nous vivons dans un monde dangereux, j'ai tendance à penser qu'elle sera posée bientôt.
Bientôt, c'est-à-dire
Je pense qu'elle sera posée
lors
un jour.
De la prochaine campagne présidentielle.
Je ne crois pas à ceux qui disent qu'il faut réinstaurer un service militaire pour régler des questions sociales.
Ouais.
Mais je veux bien entendre ceux qui disent qu'il faudra réinstaller un service militaire parce que les exigences de la défense du territoire l'imposent.
Voilà. Alors, un sujet qui pourrait bien agiter le débat pour les prochaines présidentielles. Alors, lui, il voit plus donc pour une histoire de sécurité et non pas pour une histoire sociale.
C'est étonnant parce que j'ai l'impression que ce genre de débat, il refait surface tous les 5 ans.
Ouais.
Alors là, on est encore un peu loin des échéances de réaction présidentielle, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, on a le droit au même débat. Mais ces derniers temps, effectivement, on mettait plus en avant le côté
social.
Ouais, citoyenneté pour nos jeunes.
Tout à fait.
Et là, c'est vrai que c'est quand même la première fois qu'on entend ce souci d'assurer la sécurité du pays.
Ça fait peur quand même, non? Enfin, je sais pas, moi ça m'a troublé quand j'ai entendu Édouard Philippe parler de ça. Il me dit, ah, il veut le service militaire. Alors, je dis oui, pourquoi pas? C'est vrai que ça avait quand même... ça nous a servi, à certains en tout cas, il y a bien longtemps. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que Jacques Chirac n'a pas eu vraiment la bonne idée en le supprimant quand on voit le résultat aujourd'hui. Mais c'est vrai que lui, il est plus sur le côté sécuritaire. Mais Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais. Moi, c'est pas sur le volet sécuritaire, mais c'est sur le volet mélange des populations. Parce qu'on vit tous dans des mondes qui se côtoient assez peu, finalement. Et là où je m'en suis aperçu, c'est quand il y a eu les gilets jaunes. Et beaucoup de Français ont été extrêmement étonnés de voir qu'il y avait toute une frange de population qui vivait à côté d'eux, mais qui ne se connaissait pas, qui ne connaissait pas les mêmes problèmes. Et du coup, moi qui ai fait mon service militaire, j'ai été extrêmement étonné quand on a fait les tests, qui pour moi me paraissaient compliqués, mais sans trop être trop
compliqué.
Et il y avait quand même les 2/3 qui ne réussissaient pas à le faire.
Ouais.
Donc ça veut dire qu'il y avait un mélange de population et de meilleure connaissance des gens qui était important. Donc moi, je trouve que l'idée de refaire un service militaire pour cette raison-là, ça aurait du sens. Sur un aspect militaire, moins. Pour moi, en tout cas.
Alors, l'avis du service militaire pour le...
Déjà, je voudrais savoir qui l'a fait ici, là. Ou qui ne l'a pas fait.
Vincent, voilà. Pourquoi tu ne l'as pas fait?
Pour une question d'âge.
Pour le petit jeune.
Je suis trop jeune.
Eh oui.
C'est une blague.
Eh oui.
T'es si jeune que ça.
Ouais.
Je suis deg.
Tu n'as pas connu Staline, toi, c'est bien.
Ni les JO de Grenoble.
En direct. Oui, moi, j'aurais tendance à aller dans le même sens que
Clive. On va passer pour des vieux cons, des boomers, hein, les enfants, moi je vous le dis.
Non, mais c'est vrai que ce que je retiens de mon service militaire, c'est que j'ai vu des gars qui n'était jamais sorti de... on prend le cas du pays, hein. Puis Saint-Pierre, il y avait des gens qui venaient à Briançon, la ville, au moment des foires et du service militaire.
C'était la sortie, moi, la foire.
J'ai fait à Orange, il y avait des gars qui n'avaient jamais voyagé. Même, je ne suis pas encore un vieux schnock, j'avance, mais bon. Et puis, je trouve aussi sur le plan sanitaire, ça c'est pour rigoler, j'ai vu des gens devant moi à qui on disait, dis donc, tu devrais faire des tests parce que j'ai l'impression que tu tousses beaucoup. Quand t'es brillant sonné que t'entends ça, le mot tuberculose est pas bien loin. Et puis pour vous faire rire, un gars qui a, on lui dit, mais t'as qu'une coucougnette. Et voilà, donc je pense que pour référencer le nombre de gens qui ont aussi une seule coucougnette, c'est important.
Le retour, Philippe, du service militaire.
Moi, sur le sujet, je suis assez friable. J'ai beaucoup souffert, moi, pendant un an.
Ah ouais ?
Ah oui, c'était un calvaire total.
Ah ouais.
Je suis un traumatisé, j'en rêve encore la nuit.
Ah non.
Donc, le coup du brassage social, d'accord, mais moi, j'ai croisé des imbéciles, des abrutis. Et je me dis qu'aujourd'hui, envoyer toute la jeunesse française dans des casernes, je ne sais pas si le refus d'obtempérer, ça peut marcher, là, dans les casernes. Alors, moi, je n'y crois pas du tout. Hein, c'est un peu n'importe quoi. Parce que là, on est quand même dans une ambiance d'indiscipline qu'on voit partout. Enfin, c'est... Nous, on y allait. Moi, j'y suis allé. J'avais 18 ans. Hein, c'était dur. Mais effectivement, on a brassé. Et aujourd'hui, imaginez le même... La feuille de route, vous vous rappelez de ça, hein ? Moi, je l'ai reçue.
Ouais.
La feuille de route.
Ouais, je me souviens aussi.
Un matin, là, dans la boîte à lettres
de
chez ma mère, y a la lettre arrivée, t'ouvres ton machin. Mais pour moi, c'est traumatisant. Hein. Mais aujourd'hui, imaginer la même chose, pour moi, ça me semble complètement impossible.
Moi aussi, ça m'a un peu traumatisé, mais parce que j'étais un peu plus âgé que toi et parce que j'avais ma vie professionnelle qui était partie. Et donc, arrêter la vie professionnelle pour partir à l'armée, c'était toujours un peu compliqué. Mais, cela dit, j'ai passé une année exceptionnelle. je me suis bien marré, c'était vraiment très bien. C'était une belle année. Tu gardes mon souvenir
Moi, c'était assez intéressant d'un point de vue connaissance de l'armée.
Est-ce que pour rire, tu peux nous donner l'année à laquelle l'année.
Moi, j'étais en 81.
Ah, oui, d'accord.
À l'armée.
Okay. Moi, j'étais 83.
83. Hein.
Philippe
76.
Ah oui, ouais, 76. Ouais.
Et là, j'ai rôle de vieux con, en 68.
Ah non.
66, pardon.
66.
Voilà.
Oh là là.
Voilà.
Donc, tu gardes un souvenir mitigé ou bon souvenir ?
Non, mais c'est vrai qu'il y a énormément de temps perdu et beaucoup d'inefficacité. Par contre, ce qu'on parlait des 3 jours et des classes, bon, là, c'est là où il y a un brassage.
Après, c'est
un peu différent.
C'est vrai.
Il y a beaucoup de temps perdu, c'est pas être très efficace, etc. Puis, ça donne pas une image de l'armée comme quoi on est une armée de... Marines,
oui.
Ça, c'est
oui, chef, oui, chef.
On n'est pas les GI. Hein.
On n'est pas les GI. Donc c'est un peu long. 6 mois, ça aurait été mieux qu'un an. Oui. Mais c'était quand même cet aspect de mélange que je retiens et de connaissance d'un monde que je ne connaissais pas. Voilà, donc ça, c'était plutôt pas mal. Sinon, les trajets en train pour retrouver ma dulcinée.
Ah, c'était long, ça.
C'était long.
Ah là là, c'était trop long.
Non, et puis
les 48, les 96, hein. Ouais, oh là 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 là.
Bon.
Ah, que de souvenirs, les enfants. Bon, allez, un petit sujet qui va faire plaisir à Philippe. Je voulais vous parler de vélo et de trottinette. Interdit sur les rues piétonnes. Mais il y a plusieurs communes qui réfléchissent. La mairie de Lille est passée à l'œuvre avec un arrêté qui oblige les cyclistes et les conducteurs de trottinettes à poser pied à terre dans les rues piétonnes. Décision dénoncée par les élus écologistes. Alors, ils ne sont pas anti-tout. Hein. Eux, ils sont pour donc le vélo et la trottinette. Mais la question qu'on peut se poser, effectivement, alors nous ici, on va dire on est tranquille, mais dans les grandes villes, faut-il interdire de rouler à vélo et à trottinette dans les rues piétonnes ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que là, je sais que Philippe m'a raconté une anecdote tout à l'heure en me disant, mais les trottinette, c'est n'importe quoi.
C'était pas une rue piétonne, c'était la gare routière de Grenoble. Donc il y a des enfants, on se promène, on a les valises, les machins, et t'as des cinglés qui passent, qui te regardent pas, qui s'excusent bien évidemment pas. J'ai trouvé ça. Donc il faut être vigilant. Dans un F, il faut regarder partout si on va pas se faire rentrer dedans, quoi. Et bon, j'ai trouvé que c'était quand même assez excessif.
Alors c'est vrai que par certains côtés, c'est un véritable fléau. Alors moi, je ne suis pas pour tout interdire. J'aimerais effectivement qu'on arrive à favoriser la cohabitation des différents usagers, les piétons, les cyclistes, maintenant les trottinettes. Par contre, voilà, j'ai peur que si on ait seulement des mesures incitatives pour améliorer le comportement des usagers de trottinettes, ça ne suffise pas. Donc selon la configuration des lieux, effectivement, je pense que des fois, une interdiction sur des rues piétonnes, ça me paraît pas délirant. Il faut avant tout penser quand même à la sécurité des piétons. Parmi eux, il y a effectivement des poussettes, des familles, des personnes âgées qui ont du mal à se déplacer. Alors, à regarder au cas par cas en fonction des configurations.
L'exemple à Puy-Saint-Pierre, apparemment, tu n'auras pas trop de problèmes.
Je ne peux pas encore parler de Théo à Puy-Saint-Pierre. Mais on en rigole. Mais ceci dit, on voit à notre petite échelle, et tant mieux s'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent des moyens de mobilité douce, à commencer ici par le vélo. Mais on le voit ici, quand même, les problèmes de cohabitation que ça peut poser. Et ici, c'est compliqué d'avoir des pistes cyclables partout. Hein. On ne peut pas pousser les murs, les montagnes. Et on voit des fois qu'en rue centrale, il y a des cyclistes qui arrivent en sens inverse à vitesse élevée, ça crée des tensions, des ondes. Et voilà, et je rappelle que c'est quand même 40% des accidents de sur la voie, hein, sont des deux roues, moto ou vélo.
Ouais.
Donc c'est quand même un vrai sujet. On en parle de façon légère, mais c'est un vrai sujet.
Yves ?
Alors, je dis ce qui est gênant dans les trottinettes, c'est qu'en fait, ce sont des véhicules à moteur électrique. Et il n'y a pas de sport du tout, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des véhicules légers, on est d'accord, mais où les gens, ils font pas de sport. Si ça avait été des trottinettes où tu dois pousser, c'est autre chose, parce que tu vas beaucoup moins vite, tu fais beaucoup plus gaffe, et puis t'es pas à deux ou trois sur la trottinette. Donc, c'est plutôt sur un aspect, même un vélo électrique, tu dois pédaler pour que ça fonctionne, alors qu'une trottinette, non, t'appuies sur un bouton et voilà. Donc, c'est un peu la problématique, c'est que c'est plus du sport, quoi.
Ouais,
c'est un moyen de déplacement d'un véhicule à moteur.
Ouais, et la vraie trottinette sans moteur, hein, c'est Jean-Paul qui l'a connue,
voilà,
évidemment.
Je vous remercie, oui.
Et puis sympa.
D'ailleurs, je trouve que c'est amusant parce que pendant qu'Yves parle, on voit, et les gens qui font de la marche et compagnie, on voit un sulky, là, vous savez, c'est une course de cheval, ben le gars qui est derrière, il fait pas grand chose, hein. C'est le cheval qui bouge. Hein,
ah oui, celui qui est derrière, qui est traîné.
Bon compte, le sulky.
Voilà, ça sera le mot de la fin.
Alors,
je vous souhaite une bonne journée à vous toutes et à vous tous qui étiez là pour nous écouter pour ce nouveau numéro du Coq à l'âne podcast, numéro 748. On va remercier Vincent Faubert, maire de Puy-Saint-Pierre, qui était avec nous aujourd'hui. Merci Vincent.
C'est moi qui vous remercie, c'est toujours un plaisir.
Et puis les Coqualiens, Philippe Stockley, Jean-Paul Grolier, Yves Honoré, messieurs, merci et à une prochaine fois.
Du Coq à l'âne.